Un son trop puissant nuit à vos oreilles.
La musique adoucit les mœurs, mais les décibels tuent l'audition. Agathe, vous vous êtes rendue à la première journée de l'opération créée par la région pour avertir les jeunes des dangers d'une audition à fort volume et prolongée.
Oui, depuis 13 ans, le conseil régional tire la sonnette d'alarme avec le dispositif trop puissant pour que les lycéens adoptent de bonnes habitudes pour écouter de la musique sans risque. Actuellement, un jeune sur 8 est concerné par des problèmes auditifs liés à une exposition prolongée dans un environnement bruyant. Lecteur MP3, concerts, boîtes de nuit et bien d'autres. Le traumatisme pour l'oreille est souvent irréversible. La tournée 2015, c'est 29 séances de prévention programmées dans 12 lieux de diffusion. Coup d'envoi hier à Manos au café provisoire. Les rockers de Pink No Color et un groupe d'électro jazz Namasté ont été sélectionnés et formés pour assurer l'animation de ce trop puissant 2015. Pour en savoir plus sur le dispositif, je vous propose d'écouter Catherine Béja pour la régie culturelle régionale, puis Arnaud Devel, manager de Pink No Color. Mais d'abord, Martine Carriole, conseillère régionale, elle explique ce qu'est trop puissant. Martine Carriole.
C'est un dispositif de prévention en direction des jeunes, des lycéens en particulier, puisque la région s'occupe des lycées. Et on essaie donc de prévenir les jeunes des dangers qu'ils courent en écoutant la musique, les sons trop forts. On le fait d'une façon ludique, avec un groupe, avec un dispositif aussi d'image, pour que ça soit beaucoup plus parlant, marquant, que ça les sensibilise vraiment, pour éviter les leçons de morale que les parents ou les professeurs donnent et qui n'ont pas toujours d'effet. Et pour la région, c'est quelque chose d'important puisqu'on fait ça depuis 13 ans. Moi, personnellement, toutes les années, je viens là à ce dispositif, à la MJC de Manosque. Et on espère que si ça ne porte pas ses fruits pour chaque jeune, au moins certains soient à l'abri de ces nuisances parce qu'ils en auront retenu quelque chose et peut-être qu'ils le transmettront à leurs petits frères, à leur entourage. C'est de la prévention, c'est de l'éducation pour essayer de préserver une bonne audition pour nos jeunes.
Catherine Béjart, vous êtes coordinatrice de ce projet. Une très forte implication des établissements et de formations qui sont également proposées aux enseignants. C'est pour qu'il y ait une continuité par rapport au projet que vous avez mis en place ?
Tout à fait. L'idée étant bien que ce dispositif, à la fois évidemment, concerne en priorité les élèves, les lycéens et les CFA, mais bien évidemment, nous avons souhaité, à travers ce dispositif, établir des relais au sein des établissements, au sein des salles qui nous accueillent, des salles partenaires, puisque nous avons des équipes techniques qui, depuis des années, sont maintenant sensibilisées sur la question des risques auditifs. Et cette formation que nous avons mise en place avec les académies d'Aix-Marseille et de Nice vise à accompagner les enseignants et les personnels éducatifs, puisque nous avons aussi des infirmières, des CPE, sur le dispositif, c'est-à-dire que d'abord on leur délivre beaucoup d'informations sur la question des risques auditifs, sur l'évolution des traumatismes chez les jeunes, et puis nous leur donnons aussi un certain nombre d'outils pédagogiques pour leur permettre de mettre en œuvre des projets autour de la question du son, de la question des risques, de diverses manières, de sorte que depuis quelques années, nous assistons à un rayonnement, un véritable rayonnement de ce dispositif au sein des établissements. Et maintenant, il existe peu d'établissements de lycées et CFA de la région qui ne connaissent pas le dispositif trop puissant, puisque nous sommes vraiment très relayés. Nous avons beaucoup de référents dans les établissements scolaires actuellement.
Solliciter des musiciens pour la mise en place de ce dispositif. Ces groupes sont-ils formés ?
Oui, ces groupes sont évidemment formés et longuement formés. C'est une formation très intense qui est faite avec des professionnels du son, des professionnels de la santé, et qui consiste à faire de ces musiciens qui sont sur scène, qui délivrent des messages de prévention, justement à en faire des porteurs de messages de prévention, ce qui ne sont pas à la base et qui leur demande un très gros investissement, un très grand engagement. C'est aussi sur cette base-là que nous les les sélectionnons, que nous les choisissons. C'est un vrai partenariat, ce sont les piliers de ce dispositif. Donc la formation est extrêmement complète, intense, pointue. Elle demande de leur part énormément d'heures de travail pour arriver à ce que les choses soient très fluides et pour arriver à être le plus pertinent, le plus efficace possible en face des élèves.
Quelles sont les subtilités de ce dispositif qui vont permettre de toucher un public difficile à convaincre?
Alors nous avons plusieurs subterfuges ou techniques manipulatoires, mais c'est dans le bon sens du terme. D'abord, nous avons voulu, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit des musiciens, donc des gens qui baignent dans la musique, dans le son et qui aiment ça, qui délivrent ce message. Donc ce n'est pas un message moralisateur, c'est un message qui dit en clair, on est là pour vous apprendre à gérer le mieux possible vos volumes sonores pour que vous ayez l'écoute de la musique la plus parfaite possible et le plus longtemps possible dans votre vie. Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que ce sont des musiciens qui aiment le son, qui délivrent ce message-là. Il n'est pas question de dire que on ne va plus aller au concert ni écouter de la musique, au contraire. Mais par contre, on va vous donner des outils pour le faire. Donc, premier ressort. Deuxième ressort, nous avons fait en sorte que cette séance se passe de façon aussi ludique, c'est-à-dire que nous abordons aussi une question culturelle, la question de l'histoire des musiques amplifiées. Donc, on leur montre un petit peu comment, depuis des années, il y a eu une évolution des techniques et du coup, corrélée à l'évolution des volumes sonores. Et tout ça, ça s'est passé aussi par des courants musicaux, par des découvertes technologiques, esthétiques. Et donc ça, c'est l'aspect un peu ludique et culturel, l'emballage culturel de cette séance. Donc ça, c'est un deuxième ressort, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est-à-dire que tout au long de la séance, nous faisons des tests, nous leur faisons écouter ce que peut être l'écoute d'une musique compressée et d'une musique qui l'est moins, comment aller chercher sur les sites de streaming des fichiers qui soient le moins compressés possible pour les empêcher de monter le volume sonore pour récupérer des informations qui se perdent durant la compression. Et enfin, on a beaucoup insisté ces deux dernières années sur l'impact social des traumas auditifs. C'est-à-dire que on a réalisé des vidéos qui mettent en situation un jeune qui souffre de traumatisme et qui a des difficultés à s'intégrer dans un groupe, notamment en milieu sonore, dans une cafétéria, dans un couloir de lycée, et qui ne comprend pas tout ce qu'on lui dit. Et en fait, on s'appuie sur ces vidéos pour bien dire que le trauma auditif, c'est pas seulement une question de handicap personnel, mais c'est quelque chose qui va faire que socialement on va s'exclure, on va essayer de sortir le moins possible dans des environnements bruyants parce que bah, là on ne comprend pas tout ce qui se passe et il y a un phénomène effectivement qu'on observe d'exclusion des jeunes qui souffrent de traumatismes auditifs.
Arnaud, vous êtes tour manager du groupe Pink No Color. Avant de faire partie de ce dispositif, vous en aviez déjà connaissance ?
Oui, on connaissait le dispositif. Ça faisait un petit moment qu'on y pensait. Et puis, quand on a postulé l'année dernière, on a été sélectionné pour cette année 2014-2015.
Dans quelle mesure c'est enrichissant pour votre groupe de faire partie d'un tel projet ?
L'enrichissement, il est multiple. Déjà, eux, en tant que professionnels de la musique, ils sont exposés constamment aux risques auditifs. C'est impératif de tout connaître là-dessus. Eux, en tant que musiciens sur le plateau, puisqu'ils sont exposés au son, avant qu'il y ait un public, il y a des balances, ce genre de choses, où à tout moment, ils peuvent avoir des problèmes, avoir des poussées de son qui peuvent leur faire mal aux oreilles, ce genre de choses. Et puis leurs oreilles, c'est un peu leur outil, outre leurs doigts ou leur bouche, c'est quelque chose d'essentiel pour eux. Et puis après, c'est eux, les risques qu'ils imposent aussi aux autres, même si c'est l'ingé son qui régule tout ça, eux, en jouant, à tout moment, ils peuvent exposer le public à des risques, avoir la conscience de ce qu'eux peuvent risquer et ce qu'ils peuvent faire risquer aux autres, et bah c'est quelque chose de très important dans leur métier au quotidien.
La première séance au contact des élèves s'est déroulée ce matin. Comment ça s'est passé ? Quel retour pourriez-vous faire sur cette première expérience ?
C'était le baptême du feu. Ça s'est bien passé. Le premier retour, c'est qu'on sent que les élèves au début sont... arrivent, ils savent pas trop vraiment ce que c'est, parce que le dispositif, ça peut être trop puissant. On sent qu'on comprend que ça parle de son, mais on sait pas exactement qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. C'est une formation qui dure quand même 1h40, hein. Attention, c'est pas 1h40 barbante, il y a beaucoup de choses différentes. Ils jouent de la musique, ils font un rappel historique des musiques amplifiées, donc on repart de l'époque de Woodstock, des premières guitares électriques, bien avant même Woodstock, jusqu'à maintenant. Il y a aussi des petites vidéos pour les sensibiliser, et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que les élèves comprennent un peu toute l'implication des risques auditifs et ce que, surtout ce qu'il faut faire pour se prémunir. Alors évidemment, on imagine que quand ils ressortent d'un coup, tous les mauvais gestes du quotidien ne sont pas oubliés, mais par contre, je pense qu'il y a deux trois notions qui leur restent en tête, parce qu'ils sentent quand même que faut pas faire des bêtises avec ses oreilles, pour la simple et bonne raison qu'une fois qu'on les a abîmées, généralement c'est irrémédiable, et ses oreilles, ça peut servir quand même un certain temps. Donc mieux vaut faire attention.